Vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL, il est 12h30.
RTL, le journal inattendu.
Ça y est, vous êtes prêts ? Bon, allez, moteur !
Pour votre pénitence, vous réciterez 10 pater et 10 Ave Maria. Et puisque vous m'avez pris pour un voleur, vous ne manquerez pas de racheter cette faute en passant près de nos troncs. Une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là.
Vas-y, vas-y, Jean-Pierre,
moteur !
Je crois qu'il vaudrait mieux recompter liasse par liasse pour savoir ce qui nous reste. Vous n'allez pas me donner des conseils.
Non, non, non. Seulement, on risque un pépin, Monsieur Schmitt.
J'ai l'impression d'être traqué, moi.
12h30, 13h30.
Moteur, allons-y. Moteur. Oh putain, moteur.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Jean-Pierre Mocky et Bernard Poirette.
Donc, le journal inattendu de Monsieur Jean-Pierre Mocky. Bonjour,
bonjour,
Monsieur Mocky. Vous venez de commettre au Cherche Midi une biographie intitulée « Je vais encore me faire des amis ». Ça promet, Jean-Pierre Mocky. 65 ans de vie au cœur du cinéma. C'est ça qu'il y a dans ce livre absolument inouï. Vous avez connu et côtoyé absolument tout le monde, d'Orson Welles à Jean-Luc Godard, de Bourville à Eastwood. C'est inimaginable, c'est passionnant aussi pour ceux qui aiment le cinéma et dont je fais partie. Et à 82 ans, ou un peu plus, on va revenir d'ailleurs sur l'affaire bien délicate de votre date de naissance, vous écrivez donc l'histoire de votre vie qui n'est pas terminée, loin s'en faut. Jean-Pierre Mocky, je vous propose, si vous le voulez bien, que vous dressiez votre autoportrait en moins d'une minute. Allez-y.
Alors, solitaire, bâtisseur d'images à la force du poignet, arraché, énergie farouche, 70 ans de lutte, une réussite enviée, surtout à cause d'une totale liberté, comme jalouse, caramba.
Caramba, mais vous n'avez fait que 20 secondes, toujours plus court.
Ah merde
court.
Alors, non, mais non, moi c'est je travaille très très vite, c'est pour
mais
ça
je sais que vous travaillez vite, vous tournez en 10 jours vos films, ou 2 semaines maximum.
Voilà, mais ça c'est Hitchcock qui m'a donné cette idée-là.
On va en reparler de Monsieur Hitchcock, Sir Alfred. Voilà, Jean-Pierre Mocky, acteur autrefois, désormais essentiellement metteur en scène, invité du journal inattendu sur RTL. On a une heure à passer en sa compagnie, ça devrait être assez délectable. Mais d'abord, les titres de l'actualité de ce samedi 2 mai.
Le journal inattendu sur RTL, Bernard Poirette.
Il y a tout d'abord la Grande-Bretagne, dont la duchesse de Cambridge, alias Kate Middleton, a accouché voici 3 minutes exactement d'une petite fille. Nous irons à Londres dans un instant et Stéphane Bern est en ligne pour un premier commentaire. Également dans l'actualité, une rencontre de rugby au sommet à 18h à Twickenham. On reste à Londres avec la finale de la Coupe d'Europe 100% française entre Clermont et Toulon. Donc, Kate Middleton, duchesse de Cambridge, a eu une fille. Voici quelques minutes à la maternité Sainte Mary de Londres, où elle était entrée ce matin à 7h. C'est le crieur royal qui a annoncé la nouvelle.
The princess is fourth in line to the throne. I am princess, be long lived, happy and glorious, and one day long to reign over. God save the Queen.
Bon, je vous passe la traduction. Le fait est que God save the Queen, tout le monde a compris. Et c'est une fille, le crieur a dit, donc c'est une fille. Grosse effervescence, évidemment, parmi les amoureux de la famille royale et les journalistes qui sont sur place. Et on va retrouver dans quelques instants Marie Billon pour RTL. Stéphane Bern, lui, il est là. Stéphane Bern, est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Stéphane? Non, il n'est pas encore en ligne, Stéphane. Donc, on va essayer de récupérer quelqu'un. Marie Billon ou Stéphane Bern en ligne? Toujours pas? Non.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Marie. Eh bien écoutez, je vous en prie, vous êtes devant la maternité Sainte-Marie, il y a forcément beaucoup de monde, j'imagine qu'il y a pas mal d'anglais, qu'il y a beaucoup de journalistes également. C'est un soulagement ou c'est un peu la folie furieuse là?
C'est absolument la folie furieuse, il y a des pétards partout, il y a des chants, l'ambiance est absolument électrique, les gens sont absolument fous parce que non seulement ça y est, l'attente est finie et certains attendaient depuis près de 3 semaines et puis surtout tout le monde espérait que ce soit une fille. Déjà quand le prince George est né, on pensait que ce serait une fille et là, les Anglais ont enfin une nouvelle petite princesse et donc les gens sont absolument fous de joie.
Bon bah écoutez, tant mieux. Et vous aussi, vous êtes contente, Marie Billon? Vous allez pouvoir rentrer chez vous? Ça fait 15 jours que vous attendez devant la maternité.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, on n'a pas encore exactement terminé parce que, bien sûr, les gens vont attendre de savoir le prénom de la petite fille et puis ils vont surtout attendre de voir Kate et William sortir avec leur nouveau-né dans les bras. Ce sera peut-être demain. Mais là, pour l'instant, ils ont déjà un peu un show qui est fait devant la maternité, dans le sens où il y a un crieur public, il y a seulement quelques minutes, qui s'est mis sur les marches de la maternité et qui a annoncé la naissance de la nouvelle petite princesse de Cambridge, puisque c'est le titre du nouveau bébé. Donc pour l'instant, ici, il y a encore beaucoup d'ambiance et il y aura encore beaucoup d'ambiance pendant toute la journée.
Merci beaucoup, Marie, et bon courage pour les prochaines heures. Alors, nous sommes en ligne avec Stéphane Bern. Stéphane Bern, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bon, alors, vous avez entendu le crieur public royal. Le petit Georges a donc une sœur. C'est l'équilibre familial parfait sur le papier, Stéphane. Pour autant, si j'ai bien compris, cette petite fille a un handicap. Elle est le deuxième enfant de Kate et William. Et ça, c'est dur à vivre, c'est ça ?
C'est pas toujours simple à vivre. Vous savez, dans l'histoire, être le cadet ou la cadette, ça a été compliqué. La sœur cadette de la reine Elisabeth a eu des difficultés à trouver sa place. Même chose pour le prince Andrew, frère cadet du prince Charles. Et puis, n'en parlons pas du prince Harry, qui a aussi du mal à trouver... parce que vous avez moins de pression quand vous êtes le cadet. Mmh. En anglais, il y a une expression qui dit « the heir and the spare ». C'est un jeu de mots qui veut dire l'héritier, la pièce de rechange. Et, alors, elle ne sert pas toujours la pièce de rechange, mais il y a moins de pression parce que l'héritage du trône ne va pas lui échoir. De ce fait, eh bien, il a plus de liberté. Donc, cette petite princesse Alice j'espère qu'elle s'appellera Alice d'abord. Je l'appelle Alice, mais
je voulais vous poser la question. D'où est-ce que vous sortez ça, Stéphane Bern? Personne ne connaît le prénom.
Parce qu'écoutez, il y a toutes les chances qu'elle s'appelle ou Alice ou Charlotte ou Elisabeth. Mais oui, parce que.
C'est logique.
Parce qu'évidemment, il y a des indiscrétions et puis parce que dans l'entourage de la famille royale, il y a une pression qui est mise évidemment sur le choix des prénoms qui est toujours très symbolique. Mais cette petite princesse, évidemment, va d'abord relancer l'industrie de la mode en Grande-Bretagne. On dit qu'elle va faire bénéficier de 150 millions d'euros à l'industrie britannique dans les prochains mois.
Ouais.
Parce que les layettes féminines, si vous voulez, on avait un peu soupé des layettes du prince Georges. Donc maintenant, on a envie d'une petite princesse qui, évidemment, va plus intéresser la presse magazine que les petits garçons. Donc c'est un phénomène qui est assez fabuleux, d'ailleurs, en Angleterre. C'est que la famille royale alimente en permanence l'industrie.
Oui, absolument. Que ce soit la reine-mère ou la reine Elisabeth ou encore Kate, absolument, c'est dans la lignée royale d'alimenter l'industrie, notamment de la mode et du luxe britannique. Bon, écoutez Stéphane, en tout cas, vous nous avez révélé que très probablement, cette petite fille aura pour prénom Alice. Moi, je vous précise...
On l'espère, vous, on vérifiera si j'ai raison.
On verra. On pourrait prendre
Alice
les paris.
Alice est numéro 1, Charlotte en numéro 2, Elisabeth en numéro 3.
D'accord. Et moi, je vous précise, Stéphane Bern, que la petite fille, à la naissance, pesait 3,7 kg. C'est bien, hein ? Normalement.
Absolument.
C'est parfait.
Et comme le veut la tradition, la mère et l'enfant se portent bien.
Exactement. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous souhaite un bon week-end. Jean-Pierre Mocky, ça vous émeut, les jeunes enfants ? Vous avez voulu qu'on parle de l'adoption dans ce journal inattendu.
Oui.
On en parlera tout à l'heure. Hein. Mais vous êtes sensible aux tout petits bébés, ou ça vous parle pas ?
Oui, mais j'en ai eu beaucoup et j'aime
beaucoup. Mais je sais, il y a un problème d'ailleurs, on ne sait pas combien vous en avez.
Oui, ben moi non plus. Mais le problème, c'est que les bébés, c'est adorable. Jusqu'à un certain âge, après, ça devient insupportable. Mais alors, il faut savoir à quel âge ça devient insupportable.
Mais ça commence à devenir pénible quand, alors ?
6 ans.
6 ans ?
Oui, enfin, pour moi, ça a été 6 ans, 7 ans. Parce qu'ils voient des tas de trucs à la télé, après ils posent trop de questions, etc. Voilà.
Bon, alors ça c'est le sentiment de Jean-Pierre Mocky. En tout cas, on va parler de l'adoption avec lui, parce qu'il est extrêmement troublé, Jean-Pierre Mocky, si j'ai bien compris, par le fait qu'on peut très difficilement adopter ici en France, et ça le dérange quelque part. Au Népal, plus aucun espoir officiellement de retrouver des survivants après le séisme de samedi dernier, il y a 8 jours, dont le dernier bilan s'élève à 6621 morts et un peu plus de 14 000 blessés. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portés disparus et dans le nombre, il y a 135 Français qui manquent à l'appel et qui se trouvaient en randonnée en montagne, pas loin de l'épicentre du tremblement de terre. Il est 12h39 exactement, la suite du journal, dans un instant.
Le journal inattendu de Jean-Pierre Mocky
avec Bernard Poiret sur RTL.
Cet après-midi à Trappes, dans les Yvelines, devrait se dérouler une marche en souvenir de Moussa. Moussa, c'est cet adolescent de 14 ans qui a été tué hier après-midi par balle. Le tireur se trouvait dans une voiture en marche, dont la carcasse calcinée a été retrouvée un petit peu plus tard à proximité. Aucune interpellation pour l'instant. Signalons ce matin ce tweet de l'acteur Omar Sy, lui-même originaire de Trappes d'ailleurs. « Mes prières vont à Moussa », écrit-il, victime d'une balle perdue, et mes pensées à sa famille et à ses proches. Paix à son âme et paix à Trappes. Dans l'actualité, ce matin encore, signalons cette bonne enquête de nos confrères du Parisien. Le plagiat, imaginez-vous, semble être la pratique de plus en plus en vogue parmi les jeunes qui passent des examens ou qui réalisent des concours. Certes, on triche encore avec les classiques antisèches et aussi avec un bon vieux téléphone portable, mais on triche de plus en plus en recopiant des documents le plus souvent puisés sur Internet. Du coup, Arnaud Grange s'est rendu à Lyon à la sortie d'un lycée ce matin pour demander aux élèves si ça leur arrive un peu, beaucoup ou passionnément de pratiquer le plagiat.
Tricher un simple contrôle ou même un examen, Hakim l'avoue, il l'a déjà fait.
Durant le DS, je sortais des antisèches, je prenais mon portable et je recopiais ce qui était sur Internet.
Le copier-coller, c'est la grande tendance. Reprendre des documents trouvés sur Internet, ces trois élèves ont déjà succombé à la tentation.
Surtout pour le français, des matières comme ça, littéraires. J'essaie quand même de modifier un petit peu pour pas que ça se voit éventuellement. C'est assez fréquent, surtout par exemple en philosophie, là où c'est pas forcément facile de traiter le sujet et un copier-coller, c'est facile de restituer tel quel. Ouais.
Autre astuce fréquente, rentrer des formules mathématiques dans sa calculatrice. Il faut dire que les nouvelles technologies facilitent la tâche des tricheurs.
Parce que maintenant, on peut verrouiller un téléphone sur une photo. Donc, il n'y a même pas besoin de le déverrouiller. On le sort de sa poche, on voit les réponses.
Au bac, l'année dernière, il y en a un, il avait triché avec sa montre. Maintenant, vu que c'est connecté avec le téléphone. C'est vrai que vu que c'est à disposition, c'est super facile et c'est tentant.
Tentant, certes, mais trop risqué pour Hamid.
C'est prendre des risques, perdre du temps. Vous pouvez mieux travailler que d'essayer de tricher. Chercher des méthodes, ça prend du temps aussi.
D'autant que les sanctions ont été renforcées en cas de fraude au bac. Elles vont d'un simple zéro à des peines de prison pour les cas les plus graves, notamment une substitution d'identité.
Reportage d'Arnaud Grange à Lyon ce matin pour RTL. Jean-Pierre Mocky, vous n'avez pas fait de fort longues études. Vous étiez au boulot assez jeune, vers 14 ans, je crois.
Oui.
Vous n'avez donc jamais eu à tricher à un examen ?
Non, j'ai pas triché, non. Mais enfin, en médecine, on peut pas. J'ai fait quand même 2 ans de médecine.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui. Et alors, en médecine, on peut pas trop tricher parce que vous savez, les diagnostics, tout ce qu'on nous apprend à l'hôpital, je vois pas comment on pourrait tricher là-dessus. Hein.
Ça vous a pas donné envie de faire un film là-dessus, sur la triche en général ?
Sur la triche, oh.
Non, ça vous a jamais inspiré ?
Non, mais vous savez, moi, je crois que le bac ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Il servait peut-être à l'époque, mais maintenant, il y a plein de bacheliers qui foutent rien et ils peuvent pas travailler. Ils sont veilleurs de nuit ou je sais pas quoi. Ils arrivent pas avec un bac 5, ils arrivent pas à travailler. Alors, on se demande quelle est l'importance du bac.
Oui, c'est vrai.
Et même du certificat d'études, je dirais.
Vous qui n'en avez jamais eu, finalement, vous avez eu une vie assez remplie.
Je trouve que les autodidactes, moi, c'est méga. Moi, mes filles, méga, c'est des autodidactes. Ils sont partis de rien, ils sont arrivés à quelque chose. Voilà. Enfin,
bon. Jean-Pierre Mocky, on va passer à la page des sports. Le sport est au cœur de ce week-end du 1er mai. C'est tout d'abord en Ligue 1 à 17h, Lyon qui accueille le voisin Evian-Thonon. Et puis à 20h, il y a Montpellier-Rennes, Bastia-Saint-Etienne, Lorient-Bordeaux, Guingamp-Reims et Nice-Caen. Et en Ligue 2, il y a une seule rencontre cet après-midi à 14h, Nîmes qui accueille le leader 3. Et avant de parler rugby, parce que ça peut vous intéresser aussi, vous savez que le 30 mai, il y a la finale de la Coupe de France de foot entre le Paris Saint-Germain et Auxerre.
Oui.
Et c'est à Auxerre que vous avez tourné en 84 à Mort l'arbitre, c'est bien
oui,
ça.
Oui, j'ai tourné à Auxerre et à Rouen, et le problème c'est que ce film ne traitait pas vraiment du football, il traitait des hooligans.
Oui.
Et malheureusement l'actualité m'a donné raison, et il y a eu
énormément. Oui, puisqu'il y a eu le Ezel juste après.
Il y a Ezel, après il y a eu en Corse, après il y a eu... Et surtout il y a eu un fait divers que personne ne connaît, c'est dans un petit truc dans le Gard, il y a un arbitre qui a été poignardé dans deux équipes de deuxième division. Donc en fait, dès que l'arbitre juge pas comme on voudrait qu'il juge, il est attaqué. Alors ça c'est terrible, et d'ailleurs grâce à moi, on a mis des grilles dans les stades pour empêcher les joueurs de recevoir des canettes sur la gueule, ce qu'ils recevaient avant. Ils recevaient des canettes qu'on balançait et qu'on cachait dans des tambours.
C'est grâce à vous ?
Voilà. C'est grâce à moi, parce que d'abord on m'a dit « mais vous êtes fous, les arbitres ne sont pas agressés, etc. » Et puis après, finalement, grâce à Coppa, qui était un grand bonhomme, Coppa,
ouais, vraiment Coppa, ouais.
il a dit, le changement vient de Mocky, de ce film, parce que finalement, on a installé des grillages à la sortie des vestiaires, ce qui n'existait pas à un moment. Ça n'existait pas. Les mecs pouvaient recevoir des trucs sur la gueule. Alors voilà.
Et bien donc, c'est grâce à Mort l'arbitre.
Oui, moi, j'ai participé à ça.
L'un de vos nombreux films. On va en parler de la filmographie dans un instant, forcément. On parle du rugby. Jean-Pierre Mocky, à 18h, heure de Paris, à la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Hein. C'est 100% français. Entre Clermont et Toulon, ça se passe à Twickenham, près de Londres. Jean-Michel Rascol. Alors, Jean-Michel, vous êtes sur place, bien sûr, pour RTL. Et dans le stade, tout à l'heure, nous sommes bien d'accord, il n'y aura pas un seul Anglais.
Il y aura quand même quelques Anglais, quelques curieux qui ont obtenu cette semaine des billets gratuitement alors que les supporters de Clermont et de Toulon ont acheté les leurs au prix fort. Les organisateurs ont voulu remplir les tribunes principales de Twickenham pour honorer le champion. Quel sera-t-il ? Élément de réponse avec notre consultant Christophe Dominici.
Mentalement, depuis des années, Clermont-Ferrand est fragile. C'est une équipe qui joue très bien au rugby, qui récite. Mais dès que les matchs deviennent extrêmement durs, quand elle n'a plus cette capacité à être fluide dans son jeu... Eh bien, mentalement, elle lâche cette équipe. Je pense que Toulon a perdu en efficacité. Johnny Wilkinson était capable de marquer des drops, de déplacer le jeu, d'avoir une occupation du terrain qui laissait l'adversaire sous pression pendant 80 minutes. Ça, ils l'ont perdu. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment très, très serré.
Ah, Johnny Wilkinson qui a désormais sa statue à Twickenham. Une statue, c'est peut-être la chance de Clermont. Ça ne marque pas de drop.
Absolument. Jean-Michel Rascol et Christophe Dominici qui vont vous faire vivre en fil rouge sur RTL à partir de 18h, cette finale européenne de rugby entre Clermont et Toulon. Je me tourne vers vous, Charles Dodon. Bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il des problèmes de circulation quelque part actuellement sur les routes ?
Oui, il y en a une importante qui va durer encore plusieurs heures sur l'autoroute A10 vers la région parisienne pour ceux qui rentrent de vacances. Et ils sont nombreux depuis la façade atlantique et le centre. Un poids lourd accidenté est couché sur les voies au nord d'Orléans. L'autoroute est coupée. Il va falloir la quitter en amont et emprunter le réseau secondaire, d'où d'importants bouchons dans ce secteur.
Merci Charles, vous revenez dès que nécessaire. Bien évidemment, et Valérie Quintin, du soleil aujourd'hui, certes, mais seulement dans l'extrême sud et dans l'extrême nord.
Alors, il y a un peu plus de pluie que prévu, mais il y a un peu plus de soleil que prévu aussi. Près de la Méditerranée, c'est sûr, entre les Pyrénées orientales.
Vous essayez de sauver votre âme, là,
un
c'est
peu,
ça
oui. Oui, je voudrais avoir quelques amis, parce que là, pour le coup, j'en ai plus beaucoup. Donc, du soleil entre les Pyrénées orientales, les Alpes-Maritimes et la Corse, ça remonte vers la région Rhône-Alpes aussi, ça pourrait tenir quand même jusqu'à ce soir, parce que le gros des pluies qui est arrivé par le nord-ouest avance assez lentement, ça va gagner le bassin parisien et puis les régions centrales et enfin l'est d'ici la fin de la journée. Sur l'extrême nord, on peut apercevoir quelques éclaircies. Il n'y aura pas de pluie, mais le soleil va avoir du mal quand même à passer. Bref, c'est encore la journée de la pluie, mais avec des températures un peu plus élevées que ces derniers jours.
13 à 27. Hein.
C'est ça, il fera 14 degrés à Saint-Brieuc cet après-midi, 16 degrés sur Paris, 18 à Aurillac, à Strasbourg, à Limoges, 21 degrés à Brive et Bordeaux, 23 degrés sur Perpignan, 24 à Avignon, 25 à Toulouse, à Montpellier, à Montauban, 26 à Pau. Et à Biarritz.
Voilà le programme météo de Valérie Quintin pour ce samedi 2 mai. Merci Valérie. Le journal inattendu de Jean-Pierre Mocky, on y retourne dans un instant avec l'intéressé qui vient de publier sa biographie au Cherche Midi intitulée « Je vais encore me faire des amis ». Il est 12h49 sur RTL.
Jean-Pierre Mocky est l'invité du journal inattendu.
Avec Bernard Poiret sur RTL.
Pour son livre biographique au Cherche Midi, Je vais encore me faire des amis, Jean-Pierre Mocky. La tradition veut que l'invité du journal inattendu de la semaine X pose une question à celui de la semaine X plus 1. La semaine dernière, l'invité, c'était Frédéric Mitterrand, que vous avez connu. Il a été ministre de la Culture, vous avez eu affaire à lui. Et voici la question qu'il vous pose.
Bonjour Jean-Pierre Mocky, c'est Frédéric Mitterrand. Je me perds un peu dans les chiffres. Est-ce que c'est vrai que vous avez fait 100 films et est-ce que c'est vrai que vous avez 17 enfants ?
Voilà, c'est très simple. Avez-vous fait 100 films ? Avez-vous 17 enfants ?
Alors, pour répondre à Frédéric, je vais dire, j'ai fait 72 films de long métrage et 46 films hitchcockiens d'une demi-heure. Donc, je comptabilise tout ça.
Ça fait 118.
Oui, mais en fait, comme c'est des films d'une demi-heure, les 46, je comptabilise 100. Ça fait bien, comme ça, 100, c'est clair.
D'accord.
Et quant aux 17 enfants, c'est beaucoup plus difficile à dire, parce que faire des enfants, c'est facile. Savoir s'ils sont à vous, c'est très difficile. Il faudrait tous les passer à l'ADN, et malheureusement, c'est très difficile. Alors donc, j'en ai à officiellement 17, mais je pourrais en avoir plus.
Non, mais attendez, vous ne connaissez pas Les 17 par leur prénom.
Si, je connais les 17 par les prénoms, mais je pourrais en avoir, comme j'ai eu beaucoup de relations féminines à une certaine période, la période de l'existentialisme, ce qu'on appelait l'existentialisme, on baisait tous les jours deux ou trois fois par jour.
Oui, donc, je précise qu'avec Daniel Gélin, un jour, vous avez fait le compte
alors,
de vos
Daniel
conquêtes.
Daniel en a eu 1400, lui, de femmes.
Et vous, 700 seulement.
C'est
comptage.
Une estimation, parce que comme j'ai vécu 60 ans de vie sexuelle, une par mois, 60 fois 12, ça fait 700.
Donc,
si vous voulez, mais c'est une moyenne, parce que je n'ai pas tenu d'agenda, et malheureusement, j'aurais dû. Parce que j'en ai connu que je n'aurais pas dû lâcher, parce qu'il y a des femmes formidables. Hein, il faut
bien
entendu.
Dire
que,
mais dites, encore aujourd'hui, est-ce que vous avez des coups de fil de dames un peu partout
non,
dans le monde,
même,
disant, Jean-Pierre, je voudrais te présenter ton fils.
Delon et moi, nous avons des dames qui ne... non plus de passion sexuelle. Je veux dire, elles ont à peu près notre âge, je crois qu'elles sont bien calmes.
Bon, donc voilà, Frédéric Mitterrand, il a fait 100 films, à la louche, hein, si on compte les demi-films qu'on raboute, et il a bien 17 enfants avérés, reconnus et identifiés. Jean-Pierre Mocky, dans votre impressionnante filmographie, vous avez abordé, une fois en 89, le sujet de l'adoption. C'était le thème du film « Divine enfant ». Et vous voulez aujourd'hui y revenir parce que vous trouvez sidérant, si j'ai bien compris, qu'il soit si difficile d'adopter un enfant en France. Et confirmation de ce sentiment avec ce reportage, écoutez, réalisé par Yasmina Katou.
En 2009, Christophe a 40 ans. Marié, sans enfant, il présente des problèmes de stérilité. Avec sa femme, il décide d'adopter en France. Mais après avoir eu l'agrément, les difficultés les rattrapent.
Nous n'avons aucune emprise sur le processus. On peut tout au plus écrire à quelques départements autres que le nôtre. Nous pensions avoir un dossier excellent. Mais nous avions un défaut, c'est que nous avions passé la quarantaine et que nous avions un agrément pour un enfant de 0 à 3 ans.
Et les travailleurs sociaux sont loin de les rassurer. Dès le début, ils leur prédisent un échec presque certain.
La plupart des interlocuteurs que nous allons avoir par la suite vont dépenser énormément d'énergie à nous décourager, en effet. Faut pas espérer, quoi. Dès le départ, on nous a dit que c'était une loterie, quoi. Je vis pas en attendant de gagner au loto.
Après 3 années de procédure, lassés par les découragements, Christophe et sa femme s'orientent vers l'adoption à l'étranger.
On n'a pas le choix. On n'a aucun espoir d'un pupille de l'État. Puis à un moment, on a la chance de notre vie et un dossier qu'on a envoyé sans grand espoir à un orphelinat au Bénin est retenu et à ce moment-là, tout se déclenche et tout va super vite.
L'adoption internationale représente plus de 80% de l'adoption en France. Un chiffre qui s'explique par l'attachement à la famille de sang. Nicole Emam, juriste spécialisée dans la protection des enfants.
On n'accepte pas en France le fait de se dire « il n'y a pas de solution ». Entre l'enfant et ses parents biologiques. Donc, peut-être qu'on pourrait trouver une autre alternative pour faire en sorte que ces enfants aient quand même une vie familiale. Chez nous, on fait en sorte que le lien ne soit pas coupé. C'est pas ça qui va aider les enfants à vivre.
En France, près de 25 000 candidats sont dans l'attente d'une adoption.
Jean-Pierre Mocky, on sait votre attachement aux animaux, certes. Moi, je ne savais pas votre attachement aux petits-enfants. Vous avez expliqué que jusqu'à 6 ans, ils sont parfaitement fréquentables. Bon, pourquoi est-ce que vous êtes si troublé par le fait qu'on puisse très peu adopter en France ?
Parce que moi, ces 17 enfants que j'ai eus, je ne les ai jamais connus en bas âge parce que les mères les ont emportés. Car une des raisons pour lesquelles j'ai eu autant d'enfants, c'est parce qu'à ce moment-là, les femmes étaient libérées, commençaient à être libérées et la parité commençait à exister. Et elles partaient, elles se faisaient faire un enfant, quelquefois sans qu'on le sache nous-mêmes. Et elle partait avec, ce qui fait que je n'ai jamais vécu vraiment avec un enfant en bas âge.
Oui.
Donc à un moment donné, j'ai voulu adopter, j'ai eu ce besoin d'adopter un petit garçon, une petite fille. Mais c'est pas que je suis raciste, je suis loin d'être raciste, je suis le contraire d'un raciste. Mais me retrouver avec un enfant indochinois, oui, à condition déjà d'en avoir un qui n'est pas indochinois. Mais me retrouver brusquement avec un enfant indochinois indien, ils sont charmants, ils sont formidables. Mais quand même, je voudrais qu'il ait un petit frère blanc.
D'accord.
Sœur Blanche. Alors, le problème, c'est que je me suis attaché à demander à mon nom, n'est-ce pas, d'adopter un enfant.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 42 ans, un truc comme ça.
Oui.
Et j'ai jamais réussi à les formalités. Il fallait avoir une salle de bain. Il fallait pas avoir une maîtresse. Il fallait pas aller dans des clubs. Il y avait une enquête, mais après, plus que policière,
oui,
pour avoir
sociaux.
Un enfant.
Oui.
Il fallait être irréprochable, il fallait être un curé, mais les curés n'ont pas d'enfants. Par conséquent, c'est insoluble. Alors voilà, et aujourd'hui, tous ces gens dont on vient de parler là dans le reportage, eh ben ils sont en train d'attendre, et ils peuvent attendre la cinglingling parce que finalement, ils n'auront jamais satisfaction. Alors, c'est bien pour les enfants qui ont de sinistrés, de gens qui ont perdu des petits noirs, qui ont perdu leurs parents dans des génocides, etc. C'est formidable pour eux. Parce que d'ailleurs à Paris, enfin même en province, vous voyez plein de couples avec des enfants d'une autre couleur.
Bien sûr.
C'est beau. Mais on n'en demeure pas moins d'avoir envie, en étant blanc, d'avoir un enfant blanc à un moment donné, même si on le partage avec d'autres. Alors donc, voilà, alors pour moi, ça a été un problème et ça en reste
et c'est toujours aussi difficile.
Oui, maintenant j'ai 80 ans, je ne vais pas adopter. Non. Et alors, il y a aussi cette suspicion de pédophilie qui est terrible. Mmh. Parce que je parlais avec un des responsables de l'adoption, il y a des gens qui veulent adopter des enfants par pédophilie. Donc c'est ça qu'on craint.
Mais c'est pour ça qu'il y a des enquêtes aussi serrées.
Des enquêtes qui n'en finissent pas.
Oui.
Donc c'est très très c'est un dossier très grave et je pense que même dans 100 ans, il ne sera pas résolu.
Probablement pas, surtout avec la structure administrative de la France qui est extrêmement serrée, le maillage est très très serré et donc je pense que même si vous aviez 40 ans aujourd'hui, la situation serait inchangée.
C'est pas même, je ne peux pas adopter, je regrette quand je vois une petite fille, un petit garçon, je dis merde, il serait bien avec moi et
mais oui, mais vous avez déjà 17 enfants.
Je me contente d'un chien. Ben oui, mais je me contente d'un chien maintenant, un chien remplace un enfant. Alors un chien, on peut l'adopter. Et déjà que je m'occupe de la SPA avec Brigitte Bardot, puisqu'elle est fatiguée. Et je m'occupe de 3 SPA. Et là, c'est formidable parce qu'on peut placer des animaux. Alors ça, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est en tout cas possible.
En tout cas, je précise qu'actuellement, votre chien, c'est celui de Gérard Depardieu.
Exactement.
Qui vous l'a laissé.
Il tournait dans le film. Enfin, bref. Voilà. Et je suis en train d'essayer d'adopter un éléphant nain. Mais il faut que je le trouve. Bon, ben bref.
Un éléphant nain. Vous allez le mettre dans votre appart.
Mais oui, nain. Il est tout petit.
Mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas vivre avec un éléphant à Paris.
S'il mesure pas plus grand qu'un chien ben Saint-Bernard, vous savez, on peut vivre avec un éléphant.
Bon, nous lançons un appel au peuple. Jean-Pierre Mocky est prêt à adopter un éléphant nain. Si vous en avez un à lui fournir, aucun problème, il est preneur. Il est 19h58 sur RTL. Les titres de l'actualité, 12h58. Les titres de l'actualité de ce samedi 2 mai, c'est dans un instant, juste après la pause. Et au-delà, on retrouve Jean-Pierre Mocky pour encore une demi-heure. On va continuer de parler de son livre biographique. On va vraiment rentrer dedans. Je vais encore me faire des amis. Et on va évoquer aussi un autre sujet qui lui est cher, la retraite. Oh. Mais en ce qui le concerne, bien sûr, la retraite connaît pas.
Le journal inattendu sur RTL.
RTL 13h01. Le journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité, Jean-Pierre Mocky, Bernard Poirette.
Ça y est, la couronne britannique a une princesse supplémentaire, Kate Middleton. Ce matin, à 8h30 exactement, a accouché d'une petite fille. La duchesse de Cambridge avait été admise à l'hôpital Sainte-Marie de Londres tôt ce matin. Sur le parvis, bien sûr, les fans de la famille royale sont fous de joie, comme cette jeune Anglaise au micro RTL de Marie Billon.
Je suis excitée, c'est une petite fille, on en était sûr. On est super contents. Je ne peux pas vous décrire ce qu'on ressent, nous qui sommes là depuis 2 semaines. On est soulagés de savoir que Kate a accouché, que l'attente est terminée. Et c'est une fille, c'est juste parfait.
Et tout le pays, bien sûr, attend avec impatience le prénom. Mais vous savez que tout à l'heure sur RTL, Stéphane Bern nous a laissé entendre que cette petite sœur du prince George pourrait s'appeler Alice, Jean-Pierre Mocky.
On est toujours sans nouvelles des 135 Français au Népal, annonce le Quai d'Orsay. Des centaines de personnes sont encore portées disparues, une semaine après le puissant séisme qui a frappé le pays. Triste constat des autorités népalaises ce matin. Officiellement, il n'y a plus aucun espoir de retrouver les survivants. 6621 personnes ont péri dans la catastrophe naturelle selon les derniers bilans. Plus de 14 000 autres ont été blessés.
Dans l'actualité également, l'émotion attrape dans les Yvelines au lendemain de la mort de Moussa, qui avait 14 ans, abattu d'une balle hier. Une marche blanche devrait être organisée cet après-midi à la mémoire de cet adolescent, victime innocente apparemment d'une guerre de clans. Un autre jeune a été blessé dans la fusillade et les tireurs, eux, pour l'instant, n'ont toujours pas été interpellés, Jean-Pierre Mocky.
À quelques mois du baccalauréat, cette enquête de nos confrères du Parisien, la triche est la grande favorite de l'examen. Parmi les ruses des fraudeurs, les antisèches, classiques, le portable mais aussi le plagiat, De plus en plus d'élèves se contenteraient désormais de recopier les réponses issues du web sur leur copie.
Ça, c'est très mal. En sport, la finale très attendue de la Coupe d'Europe de rugby à 18h, Toulon-Clermont, à Twickenham, dans la banlieue sud de Londres. Les Clermontois sont sous pression car les deux clubs français se sont déjà disputés le titre il y a 2 ans à Dublin et ce sont les Toulonnais qui l'ont emporté. Match à suivre en fil rouge sur cette antenne. Un mot de football, 35e journée de Ligue 1. La suite aujourd'hui, après la victoire hier soir de Marseille à Metz 2-0, première rencontre à suivre à 17h. Lyon accueille Evian Thonon-Gaillard. Et puis la météo de cet après-midi, Jean-Pierre Mocky.
Des pluies soutenues sur une grande partie du pays. Seules les régions méditerranéennes profiteront d'un ciel lumineux. En revanche, les températures seront quand même en hausse, comprises entre 14 et 26 degrés de la Bretagne au Pays Basque.
Mais vous vous en sortez pas mal. Peut-être oui. Une reconversion.
Oui,
non,
je me suis
éventuellement.
Quand même, mais enfin bon.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Jean-Pierre Mocky et Bernard Poirette.
Bien, le deuxième thème d'actualité que vous voulez traiter, Jean-Pierre Mocky, c'est celui de la retraite. Et pour parler de ça avec vous, nous avons invité un ancien journaliste du Figaro qui s'appelle Antoine Pierre Mariano, qui vient de publier aux éditions des Équateurs ce livre « Putain de retraite ». Alors, Jean-Pierre Mocky, pourquoi est-ce que ça vous prend la tête, l'histoire de la retraite? Parce que vous ne finirez jamais à la retraite.
Voilà,
alors vous mourrez au boulot.
Ça me prend la tête à cause des jeunes. Parce que je rencontre souvent des jeunes qui ont 18 ans et qui choisissent une carrière pour avoir une retraite.
Oui.
Alors, ils ne savent même pas s'ils arriveront jusqu'à cet âge-là. Mais bon, ils postulent, je vais rentrer dans les postes où je serai fonctionnaire parce que je vais avoir une retraite. Et arrivé à 60 ans, maintenant vous voyez bien tout ce qui se passe. En Allemagne, c'est 67 ans, mais en France, ils se battent pour que ce soit toujours 60 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai constaté autour de moi que les retraités s'emmerdent. Pour la plupart, parce qu'il y en a qui ont trouvé des hobbies, des... Alors, monsieur...
Ils font des cathédrales en allumettes, dites-vous.
Voilà, ils font des châteaux... Et celui qui a un hobby, qui joue du piano, je sais pas quoi, alors lui, il s'emmerde pas. Mais les autres...
Est-ce qu'il y a un vrai problème, Antoine-Pierre Mariano, un vrai problème d'ennui des retraités? Peut-être parce qu'ils partent trop tôt à la retraite, ils sont pas assez fatigués, je ne sais
pas. Oui, alors... Je crois qu'il faut d'abord pas généraliser. On m'a beaucoup reproché cela. Effectivement, parce que mon bouquin traite de retraités qui s'emmerdent.
Voilà.
Je précise que le sous-titre du bouquin est absolument génial. Ça m'a beaucoup fait rire. C'est critique du pantalon de velours.
Absolument.
Comme s'il y avait que les retraités qui mettaient des velours.
Oui, mais enfin, généralement, quand on est en retraite, on abandonne le pantalon en drap ou le pantalon en flanelle et on porte plus volontiers un pantalon de velours ou éventuellement un jean. Mais alors, effectivement, la plupart des retraités, surtout ceux qui sont partis à 60 ans, ou plutôt ceux à qui on a demandé de partir à 60 ans, eh bien, beaucoup d'entre eux s'emmerdent. Alors, il y a une grande hypocrisie, je crois, parce que beaucoup de gens vous disent « Oh, mais moi, je fais un tas de choses quand je suis en retraite. Tu parles, qu'est-ce qu'ils font ?»
Ils font du jardinage,
Même pas le jardinage, et encore tout juste, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à des réunions d'anciens combattants, des réunions d'anciens...
Ils vont au supermarché.
Alors, il y a toutes les activités du...
Oui, mais alors,
du quotidien.
S'il y a quelque chose de formidable, c'est j'ai fait un film qui s'appelle Le Bénévole, et les bénévoles, on les trouve dans cet âge. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'emmerdent tellement qu'ils vont faire du bénévolat. Ils vont dans une course de cycliste, ils vont faire la circulation.
Oui, mais c'est pas forcément par défaut. Ça peut être qu'ils n'avaient pas le temps pendant leur vie active.
Ça aide la communauté, mais je veux dire, ils cherchent toujours à aider. Alors, les restaurants du camp, évidemment, on a besoin d'eux pour les restaurants du camp, on a besoin d'eux. Mais il y en a qui arrivent à s'intéresser à des choses. Mais il y en a beaucoup qui meurent, malheureusement, d'inanition
et
d'ennui.
Et d'ennui. Mais alors, il y a un autre sujet que, bon, je n'ai pas beaucoup abordé dans mon livre, mais c'est un vrai problème économique également. Car quand on met quelqu'un à la retraite à 60 ans, eh bien, s'il vit maintenant jusqu'à 90 ans, il faudra que la communauté nationale, c'est-à-dire la société, lui
verse une retraite
jusqu'à la fin. Bon, et ce gaillard à 60 ans, généralement, est encore en pleine forme, et puis, il coûte un argent fou, au lieu de produire.
Voilà.
Et puis alors, moi, dans les retraités, ce que j'ai constaté, c'est que ce qui est terrible, c'est que quand on s'ennuie, eh bien, on se voit vieillir. Mais c'est horrible. Alors, on a évidemment les cheveux qui blanchissent, on voit de moins en moins.
On a les dents qui tombent.
On a les dents qui tombent. Alors, il faut mettre des appareils. Puis alors,
le sexe qui pend.
Oui, allez. Alors, justement,
je voulais le problème du sexe.
Il y a tout dégouline.
Ben oui, c'est quand même. J'ai fait un chapitre d'ailleurs sur le Dala. Vous savez ce que c'est que le Dalla, mon cher Jean-Pierre.
C'est quoi le Dalla?
Le Dalla, je ne sais pas ce que c'est.
Mais non, mais dites-moi.
Eh bien, le Dalla, c'est le déficit androgénique lié à l'âge.
C'est, c'est un acronyme, d'accord. Oui, voilà.
C'est, c'est des abréviations.
Donc le Dalla, eh bien,
on perd ses couilles. Vous souffrez du Dalla?
Non, mais je vais commencer à souffrir. Il y a aussi les trucs urinaires, les trucs qui pissent dans son plumat. Non, mais il y en a, et les femmes aussi. Hein. Vous savez que les femmes, ils ont plus de pertes urinaires que les hommes. Oh là là, je dis ça comme alors, ça, parce que c'est ma médecine qui m'a...
Pourquoi, dites-moi, Jean-Pierre Mocky, pourquoi vous dites dans votre bouquin à un moment que vous aurez le destin de Modigliani?
Ah, alors, je vais vous expliquer. Ça,
vous
c'est très important.
Vous allez finir sur un bon public.
Voilà, non, alors, voilà ce qui se passe. Modigliani était un grand artiste qui peignait. Il adorait peindre comme moi, j'adore faire des films. J'en fais sans arrêt. Mais moi, mes films ne sortent plus. Depuis 20 ans, je fais des films qui ne sortent qu'en vidéo ou dans des petites salles, etc.
Ou dans vos salles, puisque vous avez des salles de cinéma à Paris.
Et Modigliani, si vous voulez, il peignait, mais malgré qu'il ne vendait pas ses toiles, il continuait à peindre. Et ce qui fait que son atelier était bourré de toiles, et quand il est mort sur un banc parce que personne n'a acheté ses toiles, eh ben, il est, c'est un type qui a racheté tout ça et qui est devenu milliardaire, puisqu'une toile de Modigliani vaut 3 millions d'euros aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'on peut acheter des
films de moi, on les achètera quand je serai mort, on finira par les acheter très cher. Pour le moment, c'est en catimini, je vends ça dans des coffrets, etc., à Noël, voilà.
Mais alors, attendez, je précise quand même, parce que je l'ai appris en lisant votre bouquin, toujours, hein, je vais encore me faire des amis. On va parler de vos amis après, que vous vivez finalement pas mal, parce que vous vendez les coffrets à l'étranger, aux Américains, aux Japonais, vous vivez quand même correctement.
Je vis en vase clos, c'est-à-dire qu'en fait, je vends, et avec l'argent que j'ai vendu, je refais des films, et ça n'en finit pas, quoi. Je peux continuer comme ça, éternellement, jusqu'à ce que je crève.
C'est ça la solution pour les personnes âgées qui prennent leur retraite? Il faut absolument... Attendez, soyons extrêmement simples. Si on ne fait plus rien dès qu'on sort du bureau ou de l'usine, on meurt. Vite,
on meurt vite parce que l'oisiveté, vous savez, finalement, ça contribue à
l'oisiveté.
Ça tue. Alors on a des problèmes digestifs, on s'ennuie, on fait rien.
On n'a pas faim parce que alors retraités, il y a des gens qui ne mangent pas parce qu'ils en ont marre de.
Oui.
Et
oui.
Ils s'ennuient tellement qu'au moment de manger, je vais encore m'ennuyer en mangeant des frites ou je sais pas quoi. Ils ne mangent plus.
Oui, mais moi j'en connais d'autres. Qui au contraire
mangent et crèvent parce qu'ils ont trop bouffé.
Ou alors qu'ils boivent. Donc ça, c'est plus grave, malheureusement.
Ah oui.
Non, mais la vérité pour la retraite, il faudrait arriver à une sorte de retraite à la carte, où que chacun puisse prendre sa retraite à l'âge
qui lui semble le bon.
Voilà, qui lui convient, mais ça, il faudra renverser la table, je ne sais pas quand, et la France ne me paraît pas prête pour ce grand chamboulement.
C'est pas demain la veille, sans aucun doute. Voilà. Merci infiniment, Antoine-Pierre Mariano, auteur du livre « Putain de retraite » sorti aux Équateurs au mois de février. Et le sous-titre, je le rappelle, est excellent, ça s'appelle « Critique du pantalon de velours ». Je pense que les producteurs de pantalons de velours vont vous faire un procès, normalement.
Ou un procès ou des réductions.
Ou en tout cas des réductions. Il est 13h11 exactement sur RTL. La suite du journal inattendu avec Jean-Pierre Mocky dans un court instant, juste après ceci.
Le journal inattendu de Jean-Pierre Mocky
avec Bernard Poirette sur RTL.
Je vais encore me faire des amis, c'est la biographie de Jean-Pierre Mocky, ça vient de sortir au Cherche Midi, j'ai appris plein de choses. Alors je vais vous poser plein de questions, Jean-Pierre Mocky. D'abord, vous avez 82 ou 86 ans?
Alors, moi je j'ai 100 ans. Alors maintenant je commence à dire que j'ai 100 ans, comme ça personne ne me pose la question. J'ai dit, j'ai le temps de... Non, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'occupation, hélas, un enfant ne pouvait pas prendre un bateau quand il avait 9 ans.
Oui.
J'ai eu la chance d'avoir un parrain qui était adjoint au maire de Nice de Jean Médecin à l'époque.
Oui.
Les documents étaient faits à la main à l'époque. Maintenant, ils sont électroniques, etc. Mon parrain, pour me permettre de partir, m'a vieilli de 4 ans. Voilà. Alors, ça paraît un peu bizarre parce que je n'ai jamais corrigé ça, parce que ça m'a rendu service. Quand j'avais 9 ans, j'en avais 13. Je me suis marié à 13 ans alors que j'en avais 17, etc. J'ai commencé à conduire à 14 ans alors que j'en avais 18, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était très grave parce que quand j'allais arriver à l'âge de la retraite, on allait me dire « Monsieur, vous n'êtes plus assurable. »
Oui.
Parce que vous avez 4 ans de trop. Enfin bon. Alors,
donc il a fallu rétro-pédaler.
Pour rétrograder ce faux âge, si vous voulez, j'ai fait des démarches qui ont été celles, j'avais fait un peu de médecine, quand vous trouvez un cadavre nu, tout nu, dans un crime ou même un type qui est mort dans la rue ou je ne sais pas où, comment pouvez-vous savoir son âge? Donc je me suis mis tout nu à l'institut scientifique de X et j'ai commencé à demander quel âge j'ai.
Oui.
J'ai déchiré ma carte d'identité, j'ai dit voilà, quel âge j'ai. Alors ils m'ont tiré un cheveu, un poil du cul, après une dent, et
ils ont fait des tests,
dents, etc. Et finalement, ils ont décidé que j'avais 3 ans de moins.
Oui.
Pas 4, qui était le truc qui avait fait ce qui était sur le papier. Donc, je ne peux pas vous dire quel âge j'ai, puisque ça peut être entre 3 et 4, puisqu'on m'a reconnu 3. Alors, Chirac m'a aidé pour ça, il a été très gentil, il m'a aidé, il m'a fait faire des démarches, etc. Et maintenant, je suis en passe d'avoir ma nouvelle carte d'identité au bout de 60 ans. Avec
à 82 ans, donc vous aurez 82 ans sur la nouvelle carte.
6 juillet. Mais je veux dire, je connais des tas de stars féminines qui ont fait qui ont vraiment fait des trucs extraordinaires parce que j'ai leur carte de sécurité sociale. Je ne citerai pas ces dames par correction, mais il y en a une qui a 74 ans alors qu'elle affiche 69 ans.
Oui.
Il y en a une autre qui ça n'arrête pas. Et l'exemple type, c'était une actrice anglaise qui s'appelait Joanne Collins.
Oui, l'américaine Joanne Collins.
Elle avait des jambes superbes. Elle avait 82 ans, elle annonçait 70 ans. Alors, oui. Et alors, j'ai des doutes sur certaines grandes vedettes dont je connais l'âge, parce que j'étais avec eux. Et ils affichent un autre âge, en particulier un chanteur connu. Bon, voilà. Alors, moi, l'âge, maintenant, je dis, j'ai 100 ans, comme ça, je suis tranquille. Plus personne ne va me dire, tu as changé ton âge ou je ne sais pas quoi. Bon, j'ai 100 ans.
Alors, Jean-Pierre Mocky, vous racontez dans ce livre, donc, vos 60 ans et plus de rencontres cinématographiques, de travail, d'amitié, de haine, de détestation, de plein de choses, avec des gens inimaginables. J'en cite quelques-uns, allez, en vrac. Aznavour, Bardot, Francis Blanche, Boringer, Bourvil, Fellini, Ferlandel, Hallyday, Hitchcock, Lafont, Lavanant, Maillan, Moustaki, Polanski, Serrault, Orson Welles même. Et c'est vraiment une toute petite partie.
Oui, alors
il faut en sortir quelques-uns qui sont plus importants que d'autres. Vous avez, vous vous dites, un frère et une sœur. Le frère, c'est lui.
Jean-Pierre Mocky est un metteur en scène pas comme les autres. Il fait des films insolites. Il a toujours des sujets originaux. Et il ne m'emploie jamais comme... le comique que l'on connaît, quoi. Il aime toujours me faire des personnages un peu différents.
Voilà, c'est Bourvil,
ça,
bien
c'est
évidemment.
C'est terrible parce que c'était la veille de sa mort.
La veille de
il
sa mort.
Il était malade et il
vous
est venu
vous
dire ça
dans un
dans
rôle de paroissien.
Il bon. Est venu, il est venu me rendre hommage alors qu'il était mourant. Alors ça, c'est émouvant. Et Jacqueline Maillan, ça a été presque la même chose.
On va l'écouter aussi.
Puisque elle, c'est ma sœur, voilà, mon frère et ma sœur.
On va écouter Jacqueline Maillan.
L'avantage de tourner avec Mocky, c'est que j'avais pas le sentiment, avant de tourner cette scène un peu difficile, parce que moi je suis très timide. Alors vous vous imaginez, mais Mocky met un peu beaucoup d'ambiance et il laisse pas le temps aux acteurs de réfléchir beaucoup sur le moment. J'en ai beaucoup parlé avec lui avant. Mmh. Ça m'excitait un peu parce que j'ai toujours eu envie de changer d'emploi. Mais changer d'emploi à ce point-là...
Alors, justement, il faut que
on lui a rasé les poils du cul. Bah, enfin, dans le film. Non, mais attendez, on lui a pas vraiment rasé les poils du cul. Mais dans le film, il y avait une scène où elle était censée, Stevenin, qui était un sadique, venait chez elle et avec un rasoir, elle lui disait, rasez-vous.
Oui.
Par conséquent, vous vous rendez compte, pour une fille qui représentait la bourgeoisie française, elle jouait des pièces de théâtre sur l'adultère simple, etc. Toute sa clientèle, en écoutant ça, vous voyez, ça risquait de la faire basculer. De la même façon que Bourvil pillait des troncs, alors que son public était catho, c'était le populisme.
C'est un chef-d'œuvre, un drôle de paroissien.
Donc, il partait à... Finalement, ils risquaient de se faire détester par leur clientèle habituelle.
Oui, mais l'un et l'autre disent bien ce que c'est que votre cinéma, Jean-Pierre Mocky, c'est que vous mettez en danger les gens qui viennent travailler avec vous. Ouais. Ils font tout autre chose.
Voilà,
c'est comme ça que vous arrivez à avoir tout
ça,
le monde.
C'est pas... Oui, parce que Fernandel, par exemple, qui faisait des grimaces chevalines, c'était son truc. Je lui ai enlevé toutes les grimaces. Il n'en fait aucune dans mon film. Michel Simon, on croyait qu'il n'avait plus de mémoire, parce qu'il avait été empoisonné avec une barbe, avec une teinture. Il ne peut plus jouer. Je lui ai filé un monologue de 2 pages. Il l'a dit. Donc, il a prouvé qu'il pouvait le faire. Donc, vous voyez, chaque fois, je me suis mis au secours. Catherine Deneuve, on disait toujours, elle a des cheveux longs, blonds, c'est une couverture de Jour de France ou de match. Et moi, j'en ai fait une fille qui se branle et qui a des cheveux affreux avec des petites bouclettes, etc. Donc le principe,
et ils
c'est
ont
de
tout
changer.
Accepté, eh ouais. Tous, toujours.
Ah, et Charles Aznavour, qui est un homme merveilleux que je salue encore aujourd'hui, quand je lui ai donné le rôle d'un fou malade, qui se suicide, qui se pend, c'était le contraire de ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un chanteur de charme, donc c'était le contraire. Et il était prodigieux, prodigieux. Donc c'est changer la personnalité des gens, c'est le principe de l'acteur. Donc c'est ce que j'ai fait, mais les gens ne le font pas. Ils prennent toujours les mêmes, ils font toujours la même chose. Donc voilà.
Alors, autre chose qui est très important dans votre cinéma, bon, vous avez fait donc au moins 60 films de long métrage. Il y en a quelques-uns qui ont eu beaucoup de succès, d'autres pas du tout, qui ont fait 2000 entrées nationales, etc. C'est la musique. Alors, vous avez des compositeurs de musique fétiches.
J'ai eu les plus grands. J'ai eu les Cosma. Alors, le Cosma, le Joseph de Jacques Prévert, mais j'ai aussi le Vladimir d'aujourd'hui. J'ai eu Gabriel Yared, j'ai eu Enzo Morricone, j'ai eu Éric de Marsan, j'ai eu François de Roubaix.
Vous avez eu Léo.
Et Ferrari. Léo et Moustaki, voilà.
Léo Ferré pour l'Albatros, c'était la bande-son de l'Albatros.
Et il m'a chanté ça dans mon bureau.
Ouais.
Et c'était un homme admirable, admirable, et encore un qui aimait les bêtes. Parce qu'il faut voir aussi des choses...
Il y avait une guenon.
Voilà, et Michel Simon aussi en avait une. Donc ils en avaient une chacun. Et Francis Blanche en avait une troisième, ce qui fait que c'est... Mais si vous voulez, le singe, moi mon rêve aussi, tout à l'heure je parlais d'un éléphant, mais mon rêve c'est d'avoir un chimpanzé. Parce qu'on peut manger avec lui à table.
Oui.
Il a ses mains et tout, il vous parle, il vous regarde. C'est formidable, c'est un être humain. C'est comme un robot, mais un robot humain. C'est formidable.
Mais avec l'éléphant nain, vous ne pourrez pas faire ça.
L'éléphant nain a des yeux formidables et une mémoire extraordinaire.
D'accord. Vous pourrez jouer au bridge, éventuellement. Dites-moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc qui est louche dans votre bouquin. C'est que vous avez trop d'amis. Dites souvent mon ami Wells, mon ami machin, mon ami truc. C'est pas possible d'avoir autant d'amis. Surtout que vous êtes engueulé avec la moitié. Hein,
oui, mais tout à l'heure vous m'avez fait passer un message de Frédéric Mitterrand. Vous savez, je suis très mal avec lui.
Mais je sais bien.
Alors donc,
je sais bien, c'est dans le bouquin.
Il a quand même fait un message Non, mais je suis très mal avec certaines personnes parce qu'elles ont trahi leur début. Parce que je les ai tous connus au début.
Oui.
Et c'était des gens formidables au début. Et ils se sont gâchés. Et enfin, c'est mon point de vue. Hein. Oui. Alors, donc, ça veut dire, quand vous voyez par exemple Luc Besson, qui est un type merveilleux, un artiste de premier ordre, ben, il s'est transformé en nabab producteur, on dirait qu'il dirige des supermarchés, alors que c'était un artiste de premier ordre. Alors, si vous voulez, ce qui est très grave, c'est que la destinée des gens. Beethoven est resté Beethoven, Chopin est resté Chopin.
Il est mort pas jamais.
Et tandis qu'il y en a un tas et qui commencent bien et qui finissent mal. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai des ennemis. Évidemment, puisque
vous
je
en
les
avez,
critique.
Oui.
Ben, oui, je les critique, puisque je dis pourquoi t'as continué à faire, pourquoi t'as voulu être producteur, gagner du pognon. Mais c'est pour les femmes. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le physique nécessaire et qui ont besoin d'avoir de la puissance. Et on a vu ça aux États-Unis avec les grandes sociétés Meyer, Warner Bros, tout ça. C'était tous des mecs qui n'avaient pas de femmes. Et finalement, ils en trouvaient en faisant du cinéma.
Et bon, et ben vous voilà. Non, en tout cas vous n'êtes pas arrivé par les femmes, vous en avez eu beaucoup,
ah non,
mais vous n'en avez jamais aucune, épousé aucune pour son argent, en tout cas, non. Ça c'est sûr.
Non.
Jean-Pierre Mocky, invité du journal Inattendu, je vais encore me faire des amis, c'est au Cherche Midi. On fait une courte pause pour la publicité à 13h23 et on le retrouve dans un instant.
Bernard Poirette, Jean-Pierre Mocky,
le journal Inattendu sur RTL.
Nabucco, bien évidemment. Pourquoi vous aimez ça, Jean-Pierre Mocky?
Ben écoutez, parce que je
ça
trouve
vous
que les grands Italiens, Rossini, Verdi, Donizetti, c'était des grands musiciens de film, en fait. Et je vois que Stanley Kubrick a pris la pivoleuse de Puccini, si vous voulez, de Rossini. Et finalement, ces Italiens ont un sens extraordinaire de la musique et d'opéra. Et maintenant, avant, j'étais jazz.
Oui.
Après j'ai été rap, après j'ai été ceci, cela, folk. Et finalement, je trouve que l'opéra c'est reposant, C'est envahissant, on peut s'asseoir et écouter de l'opéra. Et seulement, il faut écouter seulement les thèmes, parce que si vous connaissez pas, vous faites chier, parce qu'ils chantent des trucs qu'on comprend pas. Tandis que quand ça arrive au thème principal, alors il y a maintenant un disque qui permet d'avoir que les motifs importants, les thèmes, et vous les avez l'un derrière l'autre, et c'est fabuleux, vous laissez aller avec ça. C'est... D'ailleurs, je pense que si je devais me suicider un jour, c'est ça que je mettrais.
Nabucco.
Je mettrai Nabucco et des opéras. Et je mourrai en écoutant tout ça.
Eh bien, nous le notons, Jean-Pierre Mocky. Ce sont vos dernières volontés.
J'ai pas envie de me suicider.
Vous nous parlerez de votre épitaphe, sans aucun doute. Alors, je précise que dans le bouquin, il y a beaucoup, beaucoup de pages sur votre période italienne. On ne va pas rentrer là-dedans. Vous étiez fort jeune, etc.
Oui,
mais c'est absolument passionnant. Non, il n'y avait pas que les partouzes.
Il n'y avait pas que les partouzes.
Mais c'était une époque absolument formidable. C'était dans les années 50, me semble-t-il. Et c'était assez génial.
35,
tout à fait, vous avez rencontré plein de gens, Alberto Sordi, Gassman, et puis l'immense Fellini, notamment sur le tournage de La Strada. Dans le livre, il y a également votre opinion sur les ministres de la culture de la République. Alors, vous racontez une histoire extraordinaire avec Malraux, vous rentrez dans son bureau, vous lui dites « Bonjour monsieur Malraux, j'ai pas un rond pour faire mon film », il vous fait un chèque de 60 000 francs de l'époque tout de suite, vous en êtes resté comme de ronflant.
J'en suis toujours resté maintenant, depuis ça, c'était en 1960, vous voyez, ça fait donc un demi-siècle que c'est arrivé, même plus. J'ai jamais vu un ministre faire ça. C'est-à-dire prendre de sa poche pour un brave acteur, un metteur en scène jeune, tout ça. Bon, j'étais très jeune. Mais depuis, malheureusement, à part Jacques Lang, qui lui avait... Parce que le problème du ministre de la Culture, c'est qu'il faut qu'il soit dans le spectacle. Parce qu'on va pas demander à quelqu'un qui n'y connaît rien de rentrer là. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que sur les 27 ministres de la Culture que j'ai connus, il y en avait 2,5 qui étaient bien. Deux hommes, un de droite, un de gauche, et une femme.
Albanel.
Alors, Albanel, pourquoi Albanel? Parce que c'est une femme qui adore le théâtre et qui m'a permis de transformer. Je suis allé la voir, et au lieu de me donner un chèque, elle m'a donné un chèque, mais de l'État, pour transformer un cinéma en théâtre. Et ça, je lui rends hommage. Et malheureusement, la virée. Pour mettre qui? Celui qui m'a posé la question tout à l'heure.
Alors, justement, pour mettre Frédéric Mitterrand.
Qui, lui, ne m'a pas reçu pendant 5 ans.
Voilà, attendez, vous savez qui on a au téléphone, là, Jean-Pierre Mocky? Hein? Bonjour, Jacques Lang.
Bonjour.
Et voilà, Jacques Lang est avec nous au téléphone.
C'est vrai?
Mais oui, c'est l'invité surprise du journal inattendu.
Mais moi, Jacques, c'est quelqu'un qui a été un type formidable. Il m'a aidé à la fois pour des films difficiles, mais aussi pour une affaire d'affiche que j'avais. J'ai fait une affiche tirée de la chapelle Sixtine où il y avait un ange qui avait un sexe qui malheureusement pour les catholiques était un sexe circoncis. Ce qui fait que ça a provoqué une énorme bagarre dans laquelle Jacques m'a soutenu. Une fois de plus.
Jacques Lang, vous avez la dernière minute de ce journal inattendu. Elle est pour vous, Jacques Lang. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Pierre Mocky, là, maintenant, qui a 82 ans et qui sort son extraordinaire biographie, là, au Cherche Midi? Que voulez-vous lui dire, Jacques Lang?
C'est délicat, puisqu'il est tellement indulgent avec moi, tellement généreux avec moi.
Ah ben oui.
Mais c'est vrai que j'ai pour lui beaucoup d'admiration et il m'étonne sans cesse comme il étonne les autres. Tout à l'heure, il vous parlait de ses distributions ahurissantes, ses choix de musiciens, de musique, sa culture absolument étonnante, sa vie riche, dense, ses 60 et quelques films. Et chaque fois que je vois un de ses films, je suis, je répète, époustouflé, surpris. C'est souvent bouleversant, drôle, provoquant, incisif. Et puis la manière qu'il a de parler, comme avec vous aujourd'hui, me ravit. Il est la vie même. Quand il tranche avec tous les culs serrés qui parfois, ici et là, peuvent nous gouverner. Voilà.
Merci infiniment, en tout cas. Merci beaucoup, Jacques Lang, d'avoir été en ligne avec nous ce samedi matin.
Je l'embrasse.
Il vous écoute.
Merci.
On a besoin de vous beaucoup, en permanence, tout le temps.
Merci, Jacques.
Merci beaucoup, monsieur Lang. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Merci, Jean-Pierre Mocky, d'être venu à RTL. Partagez vos passions avec nous. Voilà.
J'oublie une dernière chose, c'est que ce livre a été écrit, évidemment, avec tout le contenu de moi, mais il y a un jeune garçon qui s'appelle Frédéric Dieudonné et qui a été mon inspirateur aussi parce qu'il a réuni avec moi tout ce que vous avez dans le livre. Voilà.
D'accord. Parce que c'est vrai que ça en fait de la mémoire tout ça. Je vais encore me faire des amis de Jean-Pierre Mocky. C'est au Cherche Midi et c'est tout à fait remarquable, surtout pour les amoureux du 7e art dont je me targue de faire partie. Je vous souhaite un très bon week-end,
merci,
Jean-Pierre Mocky.
Merci
d'être venu
merci
à RTL.
Monsieur de nous avoir donné votre...
Bonne journée à toutes et à tous. Dans un instant, ça ne manque pas d'air, l'émission de Jade et Jean-Michel Zeka, ils sont là, bien
c'est
entendu.
Vrai, c'est
bonjour.
Vrai.
Bonjour Jade, bonjour Jean-Michel.
C'est sympa va, de vous avoir à cette heure-là, Bernard.
Mais oui, mais une fois par an, ça suffit. Hein, parce
oui,
que
parce
là, c'est double poste.
Bon, Bernard, ça m'a fait beaucoup rire tout à l'heure, le 19h58.
Mais oui, mais vous savez, on n'a plus les yeux en face des trous à cette heure-là. Moi, je suis debout depuis 3h
je
du matin.
Je compatis,
vous
je
avez
compatis.
Fait sa journée, en tout cas.
Mais exactement. Bonne émission, en tout cas, à tous deux. Amusez-vous bien. Ciao, bye bye.
Ciao.
Le journal inattendu sur RTL.